لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسأقوش إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité en ce soir de commencer un nouveau chapitre de Riyad al-Salihin, Kitab Bab al-Sidq. Après avoir traité de Kitab al-Iman, si je ne me trompe pas, non, Bab al-Ikhlas, ensuite Bab al-Tawba, et nous nous étions attardés sur Bab al-Sabr. Nous avons pris pas mal de mois sur la patience. Et maintenant, bi'idhnillah, nous commençons un chapitre extrêmement important, comme tous les chapitres, bien sûr, al-Sidq. Le fait d'être véridique. Et dans ce verset d'ouverture, Allah Azza wa Jal s'adresse aux musulmans, aux Ahlul Iman, en leur demandant d'avoir la crainte en Allah et d'être parmi les véridiques. Alors, les muhaddithin, rahimahumullah, expliquent le terme as-sidq. As-sidq, les muhaddithin expliquent, c'est de faire en sorte, le mu'min doit faire en sorte que ce qui émane de lui, ce qui émane de lui est en relation avec ce qu'il y a dans son intérieur. Le sidq, ce n'est pas que dire la vérité. Le sidq, c'est ce qu'il y a intérieurement, ce qu'il y a dans notre cœur. Cela se voit à travers nos paroles. Cela se voit également à travers nos actions. C'est pour ça que les ulama, ils distinguent deux catégories de sidq. Al-sidq fil akhbar et al-sidq fil af'al. Être véridique dans nos propos. Ça, c'est la définition la plus simple, hein. C'est dire la vérité, ce qu'on va dire, c'est la vérité. Mais également, as-sidq fil af'al, être véridique dans notre manière d'agir, dans nos agissements. De faire en sorte que ce qu'il y a dans notre cœur en termes de iman, de sincérité, de croyance, hein, cela doit se refléter, cela doit être visible à travers nos actions. C'est pour ça que, par illumination, les ulama disent que Al-Mura'i, la personne qui fait une action par ostentation. La personne qui fait une action par ostentation, elle ne fera pas partie de ce verset qui demande aux musulmans d'être ma'as-sadiqin. Celui qui fait une action pour faire voir aux gens ne sera jamais ma'as-sadiqin parmi les véridiques tant que cette personne continue à accomplir ce péché al-riya. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre ce qu'abrite son cœur et l'action qu'elle accomplit. L'action qu'elle accomplit, c'est une action vertueuse. La salat, la lecture du Coran, le dhikrullah, etc., etc. Mais ce qu'il y a intérieurement, ce n'est pas la réalité qui doit habiter son cœur. C'est-à-dire la personne n'a pas l'amour pour Allah de son cœur et l'action qu'elle accomplit n'est pas mukhlis lillah, n'est pas pour Allah. Donc, il y a une distance, une différence, pardon, entre ce qu'il y a dans son cœur et ce que la personne fait. C'est pour ça que la personne qui fait une action par ostentation ne fait malheureusement pas partie des as-sadiqin. D'où la gravité, hein, des côtés graves de ce péché. Également, par élimination, le munafiq, l'hypocrite. Ce qu'il fait ne reflète pas son intérieur. Parce que l'hypocrite, il prétend être mu'min, il prétend être musulman, mais intérieurement, c'est une personne qui n'a pas le vrai iman, qui n'a pas iman dans son cœur. Donc, une différence là aussi entre son intérieur qui est mauvais, qui est sale, et l'action que la personne va faire qui paraît être action correcte. Donc le munafiq ne fait pas partie de as-sadiqin. Et enfin, par élimination, et là c'est plus compliqué. Là ça interpelle chacun d'entre nous, quelle que soit notre école de pratique, hein, qu'on soit Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, ça n'importe peu, mais quelles que soient également nos origines, parce que c'est là qu'on trouve ce genre d'erreur. Qu'on soit d'origine indienne, d'origine comorienne, mahoraise, malgache, qu'on soit d'origine européenne, russe, indonésien, malaisien, turc et tout. Malheureusement, il y a un petit souci qu'on trouve dans toutes les communautés musulmanes du monde entier et qu'à La Réunion, on retrouve hein, chez les musulmans indiens, chez les musulmans comoriens, malgaches, etc. C'est-à-dire, dans toutes les communautés musulmanes, malheureusement, il y a un petit souci. Et ce petit souci, c'est quoi? C'est al-bid'a, les apports. Le mubtadi', ça c'est le commentaire de la Salihin, un commentaire magnifique, Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dit que celui qui fait une innovation dans la religion, cette personne également, et là c'est grave, ne fait pas partie de as-sadiqin, des gens véridiques. Pourquoi ? Parce que l'action qu'elle accomplit On a l'impression que c'est une action vertueuse, mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un moubtadir? Quelqu'un qui apporte quelque chose à la religion, cette personne, écoutez bien, elle est intimement persuadée que ce qu'elle va faire, même si ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quelque chose de bien quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le prophète a emmené, bil wahyayn, de ce qu'Allah lui a révélé, et ce qu'il a dit comme hadith, c'est bien, mais ce n'était pas suffisant. Quand on voit une personne au XXe siècle qui dit que moi je vais faire telle chose de telle manière, oui, les sahabas ne l'ont pas fait, mais c'est bien ça quand même. C'est bien ça quand même, ça veut dire que le prophète ne l'a pas fait, les sahabas l'ont loupé, mais toi au XXIe siècle, tu as trouvé ça bon et ça complète le din. Ça veut dire que le prophète, comme si qu'il n'avait, alayhi salatu wassalam, n'avait pas pensé au début que, attention, que viendra peut-être une époque où il faudra rajouter certaines choses. C'est comme si que, on remet en cause, al-yawma akmaltu lakum dinakum. C'est comme si on n'a pas le yakin que la religion qui a été révélée à notre prophète, alayhi salatu wassalam, elle est kamil. Quand on parle de kamal, c'est fil wasfi, dans la description de ce din. Il n'y a aucun naqs, il n'y a aucun manquement de ce din. C'est une religion parfaite. Il n'y a pas une erreur. Les petites divergences d'opinion qu'il peut y avoir entre la fa'uliyadain et dire amin fort, ça c'est sans conséquence. D'accord? Et quand on dit al-kamal, c'est fil wasfi, mais al-kamal également fil zaman. C'est jusqu'au qiyama que ce din est complet. C'est pas que ce din était kamil pour les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in et qu'après eux, il faut ramener quelques petits trucs. Alors on aurait pu évoquer les petits bid'ahs qu'il y a chez nous, qu'il y a chez vous, mais on va se fâcher. D'accord? Je vais me fâcher avec les gens de ma communauté et peut-être vous aussi vous allez dire ah oui, mais attends, mais ça c'est nos ancêtres qui ont trouvé ça. Attention, mes chers frères. Vous savez ce réflexe humain qui dit, qui veut que quand je fais quelque chose, j'essaie de me disculper, de déculpabiliser en me disant que, écoutez, il y a des gens qui étaient mieux avant nous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils l'ont fait. À nous, qui nous puis dit que ça n'est pas bon? Et qui c'est qui le disait au début? Depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il y avait des gens, ça c'est à notre niveau bien sûr, ils faisaient le shirk, ils adoraient les idoles, c'est pas notre cas bien sûr, mais regardez le mécanisme que Shaytan introduit dans le cœur de l'être humain. Ça c'est des waswasa, des insufflations sataniques qui font, que Shaytan fait pour que l'être humain, il se dévie du droit de chemin et il pense, oh, je suis non, ce que je fais c'est bon. Qu'est-ce que Shaytan insuffle aux mécréants? Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim, et on continue à le faire. Ou alors inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. C'était l'époque de tous les anbiya alayhim salatu wassalam. L'être humain, quand il est dans l'erreur et qu'on lui reproche l'erreur, dit oui, mais nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait. C'est depuis l'époque des anbiya alayhim salatu wassalam que les gens réagissaient de la façon. Et de nos jours, quand on fait comprendre à quelqu'un, attention mon frère, tu fais telle chose, mais donne-moi une source. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait? Est-ce qu'Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib l'ont fait? Vous savez, il y a un masla fi ulum al-hadith, c'est ajib ça. Les apports des quatre califes sont considérés comme ad-din. Parce que le prophète a demandé aux musulmans de suivre les khulafa ar-rashidin. C'est-à-dire que quand par exemple, Omar ibn al-Khattab instaure le deuxième adhan pour la salat al-Jum'a, l'aqtadi bihi. On le met en pratique. Pourquoi? Parce que c'est Omar ibn al-Khattab. Mais si c'était, je dis un exemple, Abu Huraira, ou je ne sais pas moi, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui apporte quelque chose, là non. Parce que c'est, le prophète ne nous a pas dit de suivre le modèle des sahaba, oui, mais c'est tashri'i, dans l'apport, dans le sharia, c'est An-Nabi alayhi salatu wassalam, et ce que les quatre califes jugent bon, c'est comme si que la décision émanait du prophète alayhi salatu wassalam, tellement c'était des gens qui avaient un niveau élevé. Mais à part ça, vous savez, même, subhanallah, quand on analyse ulum al-hadith, quand on voit même un muhadith qui apporte, même un tabi'in, attends, on ne parle pas des grands fundis, on ne parle pas des, comme chez nous, on dit des bouzouk. Des bouzouk, on dit c'est quoi? C'est des grands personnages, d'accord? Il y a des grands personnages, je ne dis pas non, mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, on sacralise les gens. Et on se dit que ben, si lui l'a fait, c'est bon. Attention, si on analyse notre dîn de la manière que les anciens, les mutaqaddimis ont analysé, quand un tabi'in, c'est qui un tabi'in, mes chers frères? C'est quelqu'un qui a vu un sahaba. Vous imaginez, c'est quoi? Quelqu'un qui a vu Abu Huraira, رضي الله عنه كالكلكل بمصعب بن عمر كالمصعب بن معاذ تتغاس تتغاس quelqu'un comme un tabi'in qui décrète quelque chose de la religion, s'il n'apporte pas la source, s'il ne peut pas faire une relation qui c'est un sahaba qui me l'a dit, on ne considère pas sa parole. Alors voilà, ça c'est vraiment, on voit la précaution qu'il y a de ce din. Comment les muhaddithines, ils ont pris des précautions pour que cette religion-là, elle reste préservée et qu'elle nous arrive pure natayyun, pure comme notre prophète l'a reçu de la part d'Allah, on le transmet de génération en génération. Maintenant, si dans chaque communauté, moi j'ajoute un petit point en plus, lui il rajoute deux petits points, lui il dit que ça c'est trop dur, non, etc., etc. À la fin, est-ce qu'on a suivi le mode de vie du prophète alayhi salam? Est-ce qu'on a suivi ses recommandations? Là, wallah. Maintenant, nous de faire une analyse dans chaque action que je fais tous les jours, ou de manière périodique, ou même une fois par an, dans ce que je fais, je dois me poser la question, est-ce que le prophète l'a fait? Est-ce que les sahaba l'ont fait? Si un sahaba l'a fait, ça veut dire qu'il y a un khair dedans. Autrement, on doit être capable de se remettre en question. Quitte à être appelé les gens qui nous encadrent sur la religion, dire mana ou fundi, donnez-nous une explication cohérente. Est-ce que ça, c'est une action qui a été voulue par Allah et son prophète? Est-ce que ça, c'est une action qui me rapproche d'Allah? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre prophète, alayhi salatu wasallam, a dit que « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun »« Hadha ma laysa minhu fa huwa raddun » Celui qui apporte de notre din, de notre religion, ce qui n'y était pas, c'est refusé par Allah. Maintenant que chacun prenne ses responsabilités. Donc, en commentaire, il dit que donc, pour être parmi les sadiqin, il faut faire absolument attention de ne pas être parmi les gens qui font une relation par ostentation, de ne pas être munafiq, bien sûr, pardon, et attention à ne pas innover dans la religion. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Alors, et Ibn Uthaymin rahimahullah, il va développer ce bab en commentant un hadith de base. C'est une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne pourra pas raconter toute l'histoire, c'est très long et c'est très riche en enseignement. Et vous allez vous rendre compte que cette histoire, tout le monde le connaît. Que ce soit les petits qui ont appris à la madrasa, Sirah Nabawiya, ou alors les grands qu'on a entendus. Tout le monde connaît l'histoire qu'on va raconter. C'est l'histoire de Ghazwat Tabouk, la campagne de Tabouk. Il n'y a pas une personne à l'Assemblée qui n'a pas une certaine idée de ce qui s'était passé de la Ghazwat Tabouk. Mais on va se rendre compte en lisant l'histoire que, subhanallah, on a toujours besoin d'apprendre à tout âge. Même celui qui parle, quand je relis le sharh de cette histoire, j'apprends des choses que je ne connaissais pas. Donc, à tous les niveaux, on a besoin d'apprendre notre din. C'est pas possible qu'un musulman, il commence la semaine et il termine la semaine avec le même niveau de ilm. Ça, c'est pas possible, c'est inacceptable. Quand notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous demande d'apprendre la science religieuse depuis le berceau jusqu'au tombeau, jamais on apprend, on aura assez appris. Et plus un musulman apprend son din, plus il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Plus j'apprends mon din, plus je comprends mes a'mal. Plus j'apprends mon din et donc je comprends mes actions que j'accomplis, plus facilement la haqiqa, la réalité de l'action, va entrer dans mon cœur. Quand je le mets en pratique, la réalité de la salah va rentrer dans mon cœur, dans ma vie, la réalité du somme, la réalité de la zakat, etc., etc., la réalité de dhikrullah, etc., etc. C'est extrêmement important. Et quand quelqu'un quitte sa maison, comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous dites que ben, je vais faire la salah et je vais apprendre quelque chose de digne. Vous êtes dans la même situation que le talibul ilm. Vous savez, pour apprendre la science religieuse, il n'y a pas besoin de prendre l'avion, d'aller tel endroit, tel pays, quel que soit les continents. Non, ça c'est l'idéal de se consacrer pour ça. Mais à notre niveau, je suis commerçant, je suis artisan, je travaille ou je ne travaille pas, je suis père de famille, d'accord? Je ne vais pas aller 5 ou 6 années pour apprendre. Mais si je fais l'effort, je quitte ma maison pour faire la salah, bien sûr, et avec le niya d'aller apprendre le din, inshallah, durant ce laps de temps, j'aurai les mêmes vertus que le talibul ilm, que celui qui apprend la science religieuse. C'est-à-dire que les anges vont dresser leurs ailes pour, jusqu'à ce que j'arrive à cet endroit, ils vont faire du'a pour moi, les makhlouqa, les créatures, toutes les créatures d'Allah vont faire du'a pour moi, subhanallah. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je gagne en récompense en faisant le niya d'aller apprendre, je gagne en récompense en m'asseyant dans un majlis, parce qu'à la fin du majlis, Allah décrète que tous les péchés sont pardonnés, et je gagne enfin ida, en intérêt, parce que mon din ma religion, mon iman va augmenter et mes actions seront plus mustaqim, seront plus fermes. Nous avons tout à gagner. Alors l'histoire de Ghazwat Tabuk, histoire très connue. Donc le prophète alayhi salat wa salam, en l'an 9 de l'Hijra, annonce aux sahaba qu'ils vont sortir, une armée doit se préparer pour aller affronter Ar-Rum. Pour aller affronter qui? Les Romains. Et quand on parlait des Romains à l'époque du prophète alayhi salat wa salam, c'était la plus grande puissance militaire à cette époque. Il y avait les Romains et les Faris et les Perses. Il y a des fois où les Romains avaient le dessus, il y a des fois où les Perses avaient le dessus. Regardez, subhanallah, ce sont deux civilisations qui sont complètement effacées. Rome, quand on parle de Romains, ce n'est pas Rome hein, ce qu'on appelle la capitale d'Italie. Non, c'était beaucoup plus vaste que ça. Et quand on parlait de l'Empire romain, c'était quelque chose. C'est la sunnah d'Allah de la création. À un moment, Allah accorde le pouvoir à des gens, et à un certain moment, Allah le reprend et il le donne à d'autres personnes. Vous vous rappelez quand le prophète envoie les premiers musulmans émigrés? Il les envoie où ça? Dans un pays quand même, avec un roi juste, mais un pays qui a, mashallah, qui peut se faire respecter. C'était où? Chez An-Najashi, le Négus. C'était quel pays? Ça représente quoi à notre époque? L'Éthiopie. Et que vaut l'Éthiopie de nos jours? C'est un des pays les plus pauvres au monde. Mais à l'époque du prophète, c'était un pays puissant, avec un roi juste, avec une armée. C'est un pays qui se faisait respecter. Il y avait les Romains, il y avait les Perses. Aujourd'hui, où sont ces trois civilisations? Ils ont disparu. Il y en a d'autres qui ont le pouvoir. Et là aussi, Allah Ta'ala, il fait tourner les choses. C'est-à-dire que Allah, c'est Allah qui donne le pouvoir. Allah, il donne le mulk à qui il veut. Et Allah, il reprend le mulk de qui il veut, quand il veut. Et le izza, l'honneur, c'est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on revient à l'histoire. En l'an 9 donc de l'Hijra, on annonce aux sahaba que on prépare une armée pour aller affronter les Romains. Et là, c'était une bataille qui était différente. Pourtant, on est en l'an 9 de l'Hijra. C'est-à-dire que, subhanallah, il y a déjà eu 13 années à Makkatul Mukarrama et on a déjà passé 9 années à Madina Munawwar. Voyez, on a déjà passé Ghazwatul Badr, Ghazwatul Uhud, des événements extrêmement importants, mais cette campagne-là, elle est périlleuse. Pourquoi? Premièrement, il y a l'ennemi. Les Romains, ce n'est pas n'importe qui. L'armée romaine a une organisation exceptionnelle. Il n'y a pas un pays, à part les Perses à l'époque, qui pouvait rivaliser, comme on l'a dit, avec les Romains. Donc déjà, il y a une difficulté, c'est la force et le nombre des combattants ennemis. La question qu'on peut se poser, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attaquer les Romains? Est-ce que c'est comme les historiens de nos jours disent que cette religion s'est propagée à la force de l'épée? Il va essayer de conquérir, de faire que les personnes entrent dans la religion de force? Là, wallah. Notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam décide d'attaquer les Romains parce que on lui a rapporté que les Romains sont en train de monter une armée pour envahir la péninsule arabe. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, prépare une armée pour contrer ces gens avant même qu'ils n'atteignent le golfe, la région, Jaziratul Arab, avant que les Romains puissent arriver près de l'Arabie. Et ça nous fait comprendre quelque chose d'essentiel, que notre prophète, alayhi salatu wassalam, n'allez pas attaquer comme ça les ennemis, comme nos professeurs d'histoire de nos jours aimeraient faire comprendre à nos enfants. Demandez à vos enfants, on a déjà dit ça, mais on le répète, qu'on comprenne un jour. Demandez à vos enfants qui sont en classe de 5e collège, qu'est-ce que vos professeurs vous apprennent quand vous étudiez l'islam? C'est partie du programme scolaire. Que les sahaba, on a déjà dit ici à Sainte-Clotilde, que les sahaba et le prophète, na'oudou billah, c'était des brigands. Des gens qui attaquaient les caravanes, qui volaient les biens, na'oudou billah. Pour eux, d'où est-ce qu'ils tiennent ça? Ghazwatul Badr. Parce que le prophète a dit aux sahaba qu'on va intercepter cette caravane. Donc pour eux, c'était comme des bandits grand chemin. C'était des, na'oudou billah, des voleurs. Mais ils ne vont pas plus loin de leurs analyses. Ils ont un événement, ils l'interprètent à leur façon, ils vont extrapoler et ils vont donner ça aux enfants. L'objectif, c'est quoi? C'est que les petits, les enfants qui ne sont pas musulmans, ils disent, ah oui, les Arabes, c'était vraiment des terroristes depuis l'époque de leur prophète, et que nos enfants, nous musulmans, ils disent, ah bon? Ben, Fundi nous a dit, il faut suivre l'exemple du prophète, alors qu'il volait les gens, il était voleur lui-même, et puis Fundi, ou le Moanana, la madrasa, il nous dit qu'il ne faut pas voler, ah, mettre le doute dans le cœur des enfants. C'est pour ça que nous, de notre côté, en tant que Alim ou Fundi, ou vous en tant que parents, avant tout, c'est de
rétablir la vérité, d'expliquer à nos enfants c'est quoi notre dîne, afin qu'ils ne soient pas influencés par des discours qui sont en décalage, volontairement en décalage avec la vérité. Abada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaqué les caravanes. Pourquoi? Pourquoi le prophète a décidé d'attaquer les caravanes? Oui, il a attaqué les caravanes. Pourquoi? Parce que ces Mécois avaient volé les biens des musulmans lorsqu'ils ont fait la hijra. L'exemple de subhanallah, Suhaï, pardon, Ar-Rumi, radiallahu anhu, il avait plein d'argent. C'était quelqu'un de très riche. D'accord? Il veut quitter Makkah, il va aller habiter à Madina. C'est un homme libre. Il a le droit de quitter, aller habiter où il veut. Les Mécois ont dit non. Tu es venu, tu n'avais pas d'argent, tu as travaillé, maintenant tu es devenu quelqu'un d'important. Tu quittes, ok, mais on prend tous tes biens. Tu es d'accord? Il dit, ah là, je suis d'accord. Ils l'ont volé, ses biens. Et ainsi de suite, pour beaucoup de musulmans. Donc, le prophète voulait récupérer les biens qui avaient été volés aux musulmans à Mecca. Mais vous pensez que les historiens, ils vont aller en profondeur, ils vont analyser. Ils ont une petite piste, ils vont faire tout pour essayer de descendre l'islam. Mais ne vous inquiétez pas. Hein? Ça, c'est écrit dans le Coran. Que ces gens, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahim. Avec le discours, ils essaient d'atténuer la lumière d'Allah. Ils essaient d'apporter des éléments négatifs sur notre dîn. Wallahu mutimmu nurihi. Mais Allah Azza wa Jal a décidé que cette lumière-là, elle va se parachever. Regardez le nombre de discours qu'il y a contre l'islam de nos jours. Il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il n'y ait quelque chose de nouveau. Avec récemment l'arrestation de vous savez qui, dans je ne sais pas quel pays, on l'a jeté à la mer, etc. Et là, on dit qu'il y avait des cassettes porno dans sa maison. Voilà, etc. Et même, wallahi, ça nous fait quoi, nous? Si une personne fait des péchés, le but, c'est quoi, mes chers frères? Essayez de chercher, de fouiller, de trouver n'importe quel élément, et s'il n'y en a pas, on en invente, pour essayer de noircir ce dîne, pour essayer de donner une image négative de cette religion. Mais ils n'y arrivent pas. Ils essaient de le faire en pensant que les gens vont quitter ce dîn et que le deuxième danger qui fait peur à tout le monde, c'est les conversions. Combien de gens lisent la shahada tous les jours dans tous les pays du monde? Ça n'existe pas dans aucune religion, ça, des gens qui se convertissent en masse comme ça. Donc ils savent que le nombre de mu'min billah progresse. L'objectif, c'est quoi? C'est d'écouter le musulman de son dîn et de faire en sorte que les gens ne veulent plus rentrer de ce dîn. Voilà, aksu. Et c'est le contraire qui se passe. Plus ils critiquent le dîn, plus les gens, bi'idhnillah, se mettent à chercher les vraies réponses à ce dîn. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui lisent le Coran en français que depuis une dizaine d'années, quand ils ont commencé à dire tout et n'importe quoi sur notre dîn. Et les gens, ils ont compris la vérité, et ça a été un motif de hidayah. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Ce qui se passe, ce n'est pas grave. Ça ne touchera pas notre dîn. Mais à nous de faire nos efforts pour rester ferme dans notre dîn et pour donner le bon enseignement à nos enfants. La bonne éducation, la bonne tarbiya. Et vous savez, mes chers frères, ce n'est pas tout que mon fils va à la madrasa. Qu'il apprenne les lettres et qu'il apprenne l'amman, le Coran et qu'il devienne hafiz. C'est bien ça, mais ce n'est pas tout. Le plus important, c'est quoi? C'est que mon enfant aime son dîn. Que mon enfant soit fier d'être un musulman. Ça, c'est le plus important. Maintenant qu'il connaît le Coran par cœur, oui ou non, ça c'est pour lui ça. Mais pour sauvegarder son iman, il faut absolument que mes enfants aiment leur dîn. Et je vous pose une question, est-ce possible que mes enfants aiment leur dîn? Bien qu'ils vont aller à la madrasa, ils vont apprendre le dîn. S'ils ne voient pas leurs parents attachés au dîn, mustahil, impossible. Un enfant... Vous ne pourrez pas faire en sorte qu'il devienne un bon mu'min, attaché à sa religion, amoureux de son créateur, si moi, papa ou alors mon épouse, on ne donne aucun signe d'attachement nous-mêmes. Parce qu'il y a at-ta'limu, l'enseignement classique, et puis il y a les ulama at-tarbiya disent qu'il y a at-ta'limu bil-qudwa, enseigner en donnant l'exemple. Si mon fils ne me voit pas prier, si mon fils voit que Salatul Fajr, je ne sais pas quelle heure c'est ici, chez nous c'est 6h10, si mon fils voit que l'heure de Salat al-Fajr, Fundi, elle a enseigné, au moins là, le Moulissa a expliqué que tu dois te réveiller Fajr. Il se réveille, fait ce wuzu, il ouvre la porte, il voit papa, maman, il ronfle jusqu'à 7h, jusqu'à que le soleil se lève, et il entend le réveil sonner à 7h, il va se dire qu'à un moment donné, il va faire sa salat une fois, deux fois, à un moment donné, il va larguer le col. C'est exactement comme un papa qui dit à son fils, fume pas, tu vas avoir cancer du poumon, t'es ça, et le papa, il grille 3 paquets par jour. Vous pensez que cet enfant n'aura pas envie de fumer? À qui il va fumer? S'il voit son père fumer depuis qu'il est petit, vous pourrez lui tenir autant de discours que vous voudrez, il va dire que c'est du n'importe quoi. Hein, c'est un hypocrite, il dit, il ne fume pas, lui-même, il fume. D'accord ? Nafsu Shay. Pour le din, j'envoie mes enfants à la madrasa, ils ont une éducation avec le professeur, mais si moi-même je n'enseigne pas la religion, je ne fais pas entrer l'amour pour le din dans leur cœur, et que je ne manifeste pas cet amour pour la religion, et cet attachement pour la pratique, n'espérez pas grand-chose du din de vos enfants. Et nous serons les premiers responsables si nos enfants s'éloignent du din. Il ne faut pas attendre quand le garçon il a 15 ans, il est au lycée, et que là, il commence à toucher la première clope, et après la première clope, il y a le 1er juin, et puis le 1er juin, il y a le 12 qui passe au Dieu, etc., et qu'il commence à sortir en boîte, qu'il commence à boire, qu'il commence à faire tout ça, comme on voit dans notre communauté. Il ne faut pas attendre qu'on arrive à cette étape critique pour se poser des questions sur l'éducation de mes enfants. Ah, Moussa, comment il fait? Mon garçon, il n'écoute plus. Mon garçon, il fait ci, il fait ça. C'est trop tard, mon frère. On ne dit pas que c'est trop tard, la guidée est dans les mains d'Allah. Mais faites une rétrospective et regardez, analysez. Est-ce que moi, papa, j'ai donné l'amour pour le dîner à mes enfants? Est-ce que j'ai manifesté, j'ai montré à mon fils attachement à la religion? Est-ce que dans mon exemple, il a trouvé bien de pratiquer son dîner? Si ça n'a pas été le cas, ça c'est les conséquences de notre manquement de notre religion. Et chacun doit se faire soi-même des reproches et ne pas accuser la société, ne pas accuser Fulan. Allah et qu'Allah nous permet de rester dans notre din et que nos enfants également grandissent dans ce din et qu'Allah Azzawajal aide chaque papa, chaque maman pour donner l'éducation religieuse qu'il faut à leurs enfants. 26 minutes, hein, on en est encore 4 minutes, on complète 30 minutes, inchallah. Donc on continue. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce aux sahaba que voilà, nous préparons une armée pour aller, donc, pour aller accueillir les Romains, quoi qu'ils n'envahissent pas la péninsule arabe. Et là, c'était une campagne difficile, parce que c'était en plein été. Vous savez, c'est quoi l'été en Arabie? Subhanallah, d'accord? Je me souviens d'un été. À l'époque, j'étais étudiant à Madina Munawwara. Après Salat al-Dhuhr, ça affichait 52 degrés. C'est quelque chose, d'accord? Et à l'époque, par exemple, pas de ventilateur, pas de climatiseur, bien sûr, d'accord? Donc, en plein été. Et quand on dit été, pour les agriculteurs, c'est synonyme de quoi là-bas? C'est la saison des dattes, la saison des rotob. Les rotob, c'est quoi? On ne va pas faire un cours d'agriculture. Les rotob, c'est les dattes fraîches, de deux couleurs, hein, marron et beige et tout. C'est les meilleures dattes du monde, d'accord? Les rotob, si vous ne les cueillez pas maintenant, ça se gâte en quelques temps. Et ça se ferment, ça devient alcool. Et c'est des rotob que vous allez faire les tamres. Avec les dattes fraîches, vous allez les laisser et ils vont devenir tamres, c'est-à-dire les dattes sèches que nous mangeons ici. D'accord? Bref. C'est-à-dire que pour un agriculteur, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et chez les Arabes même maintenant, si en été, vous avez loupé la récolte des dattes, ben c'est fini. Il y a une récolte par an. C'est le masdar rizq. C'est le moyen d'avoir sa subsistance pour toute l'année. Parce que les dattes, vous les conservez des années après quand ils sont séchés. D'accord? Donc, c'est un sacrifice énorme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander aux mu'mines, abandonner femmes et enfants. Et en plus, aller cueillir les Romains, c'est extrêmement loin. Jamais les musulmans n'avaient participé à une campagne aussi éloignée de leur terre. Donc c'est un voyage périlleux, très loin. Ça veut dire que femmes et enfants vont rester très longtemps seuls. En plus, en plein été, et la saison de récolte des dattes, ce qui fait que financièrement, ça va être une année difficile. Et là, on va voir qui sont les sadiqines des munafiqines à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, les munafiqines se sont illustrés, hein, ils n'ont pas participé à la bataille, à la sortie de Ghazwat Tabouk. Maintenant, la question qu'on se pose, hein, il y avait une fois un tabi'in ou un jeune sahaba qui avait dit à son oncle, je ne sais plus si c'est Anas bin Malik ou qui, il dit que si seulement si Allah m'avait donné la chance d'être vivant à l'époque du prophète, j'aurais fait telle chose, je l'aurais aidé, j'aurais fait sa nusra. Alors l'oncle a dit à son neveu, attends, a dit, si tu savais quelle situation nous avons vécu, quelles étaient les difficultés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas sûr que toi, mon neveu, tu aurais pu répondre présent comme nous on l'a fait. Ça veut dire que les sacrifices que les sahaba ont fait, c'était des sacrifices extraordinaires. Ils ont dû sacrifier leur corps, leur temps, leur bien, pour aller dans une campagne où personne n'a la garantie de retourner vivant. Peut-être quand un sahaba il fait salam à son épouse pour accompagner le prophète salam, c'est peut-être un wida'a, c'est peut-être le dernier salam et il se retrouve fil jannah. Et c'est peut-être qu'il ne retrouvera jamais sa femme et ses enfants. C'est déchirant, mais c'était l'esprit de sacrifice des sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in. Et s'il n'y avait pas eu, bi'idhnillah, des sahaba qui avaient fait ces efforts, tout le temps, ça, on insiste, hein, quand on enseigne la sirah à nos élèves, on dit que s'il n'y avait pas eu Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, s'il n'y avait pas eu les premiers musulmans qui sont restés fermes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient persécutés, ben les autres sahaba ne se seraient pas convertis. Et les autres, la troisième génération, etc., ils ne se seraient pas convertis parce qu'ils auraient vu un homme qui prêche seul. Et c'est grâce au sidr, c'est grâce à leur qualité, à l'azm, à leur fermeté de le dîn, qu'il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup de sahaba, et que nous, aujourd'hui, à l'île de la Réunion, nous sommes des musulmans. Autrement, nous, musulmans d'origine indienne, nous serions toujours en train de pratiquer la religion de nos ancêtres en Inde. Et vous, qui êtes d'origine comorienne ou mahoraise, s'il n'y avait pas eu des sahaba qui étaient venus jusqu'aux îles Comores pour prêcher le dîn, Allah seul sait dans quel dîn vous seriez de nos jours. Ça veut dire que, subhanallah, s'il n'y avait pas eu le juhd et le mujahada, l'effort et le sacrifice fait par ces premiers mu'mines, nous, à notre époque, là, on n'aurait pas la shahada dans notre cœur. Et si nous ne faisons pas, nous ne reproduisons pas un effort, je ne dis pas identique, mais un semblant d'effort comme les sahaba l'ont fait, ben nous serons responsables si le dîn n'arrive pas aux générations futures. Donc on se pose la question, nous maintenant, si on était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on nous avait demandé de tout abandonner pour le suivre, qui aurait répondu présent? Trop facile de dire que oui avec le prophète, oui. Non, attendez, là c'est dans ces moments où on doit faire un choix, qu'on distingue qui c'est qui a iman en Allah, qui c'est qui a l'amour pour Allah et son prophète dans son cœur, de celui qui reste attaché au bien de ce monde. Des fois qu'on vient d'arriver au soir du travail, je ne parle pas avant en premier, Allah nous pardonne, on vient d'arriver au soir du travail, on est fatigué, on commence à manger, et là, on dit bon là, on va s'asseoir un peu un canapé avec la clim, tranquille, celui-là de la salat, parfois on se dit, ben écoute, je suis fatigué, Allah il pardonne, bon, on fera après. Tu as choisi le dunya sur l'akhira. Voilà, le match vient de commencer là. Il y a la finale Ligue des Champions, il y a Milan. Non, il y a. Qui ça? Allah, j'espère que vous ne me donnez pas la réponse. Parce que je vais vous demander dans un instant qui sont les trois qui n'ont pas participé à la campagne de Tabouk. Ah, ne répondez pas à ma question. D'accord? Donc, il y a Barcelone, Manchester, là, je ne sais pas quelle heure ça se passe. À 20h, disons. Ça se passe à 20h. La salle à 20h15. Vient de commencer 10 minutes, la Ronaldo, la plus Ronaldo Manchester, je suis en décalage. Il est en train de faire tout son cinéma et tout, 1-0, 1-1 et tout. Salah, 8h15, on entend le azan, on l'entend, on sait que la Salah est 20h15. Sacrifice. Ah oui, mais d'un côté, je vais voir mon dunya, finale de Ligue des Champions. De l'autre côté, Salah, je fais tous les jours. Je rate jamais ma Salah avec Jamal. Un jour, Allah va pardonner. Non, mon frère. Peut-être pour ce sacrifice-là, pour ce manquement, Allah peut prendre une décision contre toi. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah ne juge pas sévèrement. Peut-être pour un sacrifice qu'on a le choix entre dunya, malazat, plaisir de ce monde, et le din, et que le din est accessible, hein, c'est pas difficile de venir, c'est pas qu'on doit marcher une temps, difficulté. Non, là, à deux coins de rue. Allah nous éprouve. Attention, quand on a la possibilité de choisir le din d'Allah ou le dunya immédiat, et qu'on choisit le dunya, on doit avoir peur. Que peut-être Allah est tellement mécontent de ce mauvais choix qu'Allah décide de nous ouvrir le dunya et de nous y enfoncer et de nous éloigner jour après jour du dîn. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui se fait éloigner d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la pire des choses. Quand quelqu'un décide d'éloigner une personne, quand Allah Azza wa Jal décide d'éloigner quelqu'un, ça, c'est pire que la personne est éprouvée dans ce monde par la maladie, par les difficultés, par n'importe quelle chose. Les ulama, rahimahumullah, disent que le pire des ibtila, c'est ibtila et fiddin. Ça, qu'Allah nous en protège. Donc, à notre niveau, on ne parle pas de Ghazwat Tabouk, à notre niveau, faisons très attention. Quand on a le choix entre dunya et din, ne faites jamais le choix de dunya. Et je parle vraiment en premier. Quand on s'est couché tard le soir, samedi, les dimanches matin, Salatul Fajr, 6h, je me réveille à 6h-10, je dis que, ah non, le corps est écrasé là. Le lever du soleil, 6h30, 6h40. Ah là, je me réveille à 6h30, je fais ma salah chez moi. Attention à ce choix. Alors que rien ne nous empêche de venir à la salah. Ni la maladie, ni le danger, ni la question de sécurité, il n'y a aucun problème. Et que je fais ce choix de rabattre ma couverture, de me rendormir, ça, c'est un mauvais choix. Et ça, c'est un choix qui peut nous éloigner du dîn. Parce qu'Allah nous éprouve dans ce genre de moments. Alors que chacun, je n'accuse personne, hein, ça c'est des situations que tout le monde a vécues une fois au moins dans sa vie. et qu'on continue à le vivre régulièrement. Quand Shaitan il vient dit que tu fasses salat lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Khalas, aujourd'hui c'est dimanche. Prends un peu de recul, repose-toi, donne le droit à ta femme, à tes enfants. Wassa oui ce Shaitan, les pièges du Shaitan. Faisons attention à ne pas faire les mauvais choix. Jamais faire passer les plaisirs de ce monde avant le akhirah. Les Sahaba ne l'ont jamais fait. Et nous allons voir la prochaine fois, inshallah, on va s'arrêter là. Ces trois Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ils ont fait une erreur. Lorsqu'ils ont vu les musulmans partir en masse à Tabouk, ils n'ont pas dit qu'on ne va pas y aller parce qu'il y a la récolte ou madame's enfants. Non, ils se sont dit que, après. Ils ont dit que, khalas, on va y aller, mais on attend un petit peu. Yani, ils ne pouvaient même pas dire pourquoi. Mais ils se sont dit qu'après on rejoindra, après. Et jour après jour, ils se sont rendus compte qu'ils remettaient à demain, jusqu'à ce que les musulmans arrivaient au lieu de rencontre. Hein, ils voient que les Romains ne sont pas venus, il n'y a pas eu bataille, et ils sont retournés plus tôt que prévu. Et là, ils se rendent compte que l'armée est retournée et qu'on n'a pas bougé de Madina Munawwara. Qu'on a raté une sortie avec le Prophète, on a désobéi délibérément au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans excuse valable. Et vous allez voir quelles seront les conséquences de cette action. Ils n'ont pas fait un gouna, hein. Ils n'ont pas fait le zina, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas fait un péché. Ils ont fait le mauvais choix. Et nous allons voir quelles sont les conséquences, comment ils en ont souffert de leur dîn, comment ça a été une épreuve difficile et quelles sont les leçons à retenir de cette histoire. Et la leçon qui nous intéresse sera le premier point, que lorsqu'Allah Azza wa Jal vous montre le droit chemin, n'attendez pas. Lorsque vous sentez que, alhamdulillah, j'ai envie de faire telle chose, à partir de demain, je veux commencer Qiyamul Layl. J'écoutais par exemple un hadith sur les vertus de la Salat al-Tahajjud, Qiyamul Layl, je suis motivé. N'attendez pas, khalas, on est Rabi al-Thani, le Jama'at al-Thani, j'attends le mois de Rajab pour commencer. Non, ne faites pas ça. Si vous sentez que vous avez envie de le faire, faites-le maintenant. Commencez maintenant. Ne jamais retarder une bonne action. Tout comme il ne faut jamais retarder un istighfar. Quand vous avez fait un péché, ne dites jamais que khalas, après je demande tawba. Non, ça c'est ce qu'on appelle at-taswif. Ça vient de Shaitan. Après tu feras. Et troisième chose, on va voir également, quand quelqu'un est éprouvé, qu'il doit faire preuve de patience maintenant. C'est pas qu'il se plaint et ensuite il va dire je fais sabah, etc. On va voir donc, subhanallah, cette histoire elle est connue, mais il y a tellement d'enseignements retirés de cette histoire. Magnifiquement expliqué par Mi'utaymin, rahimahullah, de ses commentaires de Ilal Salihin, qu'Allah nous tawfiq de comprendre les quelques paroles qu'on a dit, qu'Allah nous donne les qualités de sidq, d'être véridique, que ce qu'on dit, bien sûr, c'est la vérité, mais que également nos actions soient en relation avec ce qu'il y a de nos cœurs. Déjà, faire l'effort pour changer notre intérieur, que notre cœur, notre iman soit pur, khalis lillah, et que nos actions traduisent également cette pureté de l'iman. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, et de propager à nos mères et à nos sœurs. Vous savez, là, on est déjà dans le deuxième Jamad al-Thani, ou Al-Akhir, et dans trois semaines, ce sera le mois de Rajab. C'est-à-dire que le Ramadan arrive, et c'est dès maintenant que chaque musulman se doit de se préparer pour le Ramadan. Il n'est pas trop tôt. On doit faire un tartib. Qu'est-ce que je vais faire de plus que l'année dernière? Et c'est comme ça qu'on avance dans le dîn. Bien malheureux, ce musulman qui, quand Ramadan arrive, il commence le somme, et quand il sort, khalas, et il ressort avec rien de nouveau. Aucun apport spirituel, aucun apport sur le iman, aucun apport en termes de amal. D'un Ramadan à l'autre, je dois avoir un progrès dans ma vie. Si en 2010, j'ai pris la décision que, khalas, tous les lundis et les jeudis, je fais le jeûne nafil. Alhamdulillah, ça doit être un acquis. Qu'on a eu. Le Ramadan 2011, je dois avoir un autre objectif. Que khalas, maintenant le 13, 14, 15, Ayyamul Bayt, par exemple, je fais le jeûne également. Ou alors qu'à partir de ce Ramadan-là, je fais l'intention de ne plus rater un Qiyamul Layl. Ou à partir de ce Ramadan-là, je fais l'intention, mon objectif, c'est de travailler ma présence au premier saf avec Salatul Jama'a, par exemple. Dès que je dois me fixer un objectif à atteindre et rester ferme dedans avec l'istiqam. Qu'Allah nous accepte. Une petite remarque, hein, ça c'est quelque chose de personnel, on a eu, bismillah, l'occasion de faire la salat al-Jum'a, il y a deux semaines ici, à la masjid Qouatul Islam de Saint-Clotid. Et à ma grande surprise, j'ai constaté que jusqu'à ce que l'imam s'assoie sur le mimbar pour la prêche, le premier saf est souvent vide. Il y avait des espaces. Ça c'est inacceptable ça. C'est-à-dire que comment un musulman, la masjid était pleine, mais il y avait des gens qui s'appuyaient contre le mur. Alors qu'il y avait des places au premier rang. Si vous saviez quelle vertu il y a d'être dans le premier rang. Enfin, ça m'a dit que si les musulmans savaient quelles sont les récompenses qu'Allah accorde à celui qui prie dans le premier rang, les gens seraient venus au premier rang ou Allah ou Habwar. Habwan, ça veut dire quoi? Même en rampant. Quelqu'un serait venu, même s'il est malade ou je ne sais quoi, la personne aurait rampé pour venir s'asseoir au premier rang. Et là, je vois, subhanallah, au premier rang est presque vide. Alors, à nous de comprendre que ça, c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir le saf al-awwal. Il y a beaucoup de thawab, beaucoup de récompenses. À nous de faire des efforts, donc, de combler les premiers rangs pour avoir ces récompenses. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin, zakum al-khair.